Bonsoir. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba et tout son gouvernement viennent de tomber ce mercredi soir. C'était à l'issue du vote par les députés nationaux de la motion de défiance contre le Premier ministre, signée par plus de 300 députés. Sur les 377 députés présents à la plénière, 367 ont voté pour cette motion, 7 ont voté contre et 2 se sont abstenus et un bulletin nul. La plénière s'est déroulée sans le Premier ministre. Quelle analyse de la déchéance du Premier ministre Ilunga Ilukamba? Nous en parlons ce soir dans le dialogue entre Congolais avec Chérubin Okende, député national élu de la circonscription électorale de la Lukunga dans la ville de Kinshasa. Il est cadre du parti politique Ensemble pour la République. Il est aussi l'initiateur de la motion de défiance contre le Premier ministre. Chérubin Okende, bonsoir.
Bonsoir madame.
Lucien Kasongo, député national et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Il est président de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Lucien Kasongo, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et le professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani. Professeur Maindo, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes très très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Deogracias Kumpani. Je salue la décision de l'Assemblée nationale, mais sur le plan forme, ce n'est pas totalement propre pour un bureau d'âge de destituer le gouvernement afin d'éviter une crise institutionnelle politique inutile. Je conseille au Premier ministre de déposer sa démission. Fikiri Tchomba, c'est du gangstérisme politique le moins que l'on puisse dire en ce moment, un véritable recul démocratique. Merci de nous suivre, partenaire d'essai sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Il était l'un des derniers remparts de la majorité détenue par Joseph Kabila. Sylvestre Ilunga Ilukamba, premier ministre de Félix Tshisekedi depuis mai 2019, a été destitué ce mercredi 27 janvier à la suite du vote d'une motion de censure déposée le 22 janvier par le député Chérubin Okende de Ensemble pour le changement, plateforme de Moïse Katumbi. Le texte avait été signé par 301 députés. La plénière de ce mercredi s'est déroulée sans le premier ministre. On écoute le président du bureau d'âge, Mboso Kodia, qui donne les résultats officiels de ce vote.
367 députés ont voté pour la motion. 50. L'Assemblée nationale adopte la motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilukamba Sylvestre, conformément au prescrit de l'article 146, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 214, alinéa 7 de son règlement intérieur. En application de l'article 147, alinéa premier de la Constitution, et de l'article 215, alinéa premier du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilukamba Sylvestre et réputé démissionnaire. Les premiers ministres, s'il vous plaît, les premiers ministres est tenu de remettre la démission de son gouvernement au président de la République dans les 24 heures.
Cher Ruben Okende, je rappelle que vous êtes député national élu de la circonscription électorale de Lukunga dans la ville de Kinshasa. Vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République, mais aussi initiateur de la motion de défiance contre le Premier ministre Ilunga Ilukemba. Votre réaction à chaud après ce vote qui a conduit à la déchéance du Premier ministre?
Je sens, madame, tout en saluant mes compatriotes qui sont aussi invités à cette émission et l'ensemble des auditeurs de la radio Capi, je ressens en moi un sentiment de responsabilité et surtout je caresse les perspectives d'un véritable état de droit dans notre pays. Parce qu'en tant que député, il ne nous revient pas simplement de voter des lois, mais aussi d'exercer le contrôle parlementaire. Pour une fois dans ce pays, que l'action parlementaire puisse aboutir jusqu'à la déchéance du gouvernement, je pense qu'il y a fort à espérer que nous pouvons continuer avec la construction de l'état de droit. Donc c'est ce sentiment de prime abord qui m'habite en ce moment précis, parce que je ne l'ai pas fait à la tête du client ou par méchanceté du tout. Il vous souviendra que lorsque le Premier ministre est venu en septembre 2019 présenter le programme de son gouvernement à l'Assemblée nationale, j'étais parmi les députés de l'opposition qui avions relevé des incongruités dans ce programme du gouvernement, tout en disant au Premier ministre qu'il sera illusoire de penser que ce programme sera exécuté. Bon, comme nos amis de la majorité étaient dans cette majorité mécanique numérique, ils ont dû, sans meilleur discernement, voter pour ce programme. Et à partir de ce moment-là, j'avais pris le pari, le rendez-vous avec moi-même en tant que député pour commencer à passer au crible les actions du gouvernement en attendant que le moment venu, je pouvais régenter une action de ce genre. Il faut également soulever que nous n'avons pas attendu simplement les 2 années, parce que dans cette législature, beaucoup d'initiatives de contrôle parlementaire que nous avons prises ont été bel et bien escamotées, freinées par le bureau de l'Assemblée nationale sortant. Donc c'est une opportunité que nous ayons cette fois-ci à faire aboutir cette action, et je pense bien que c'est un signal fort. Quiconque se trouve dans l'exécutif doit se dire qu'il n'y aura plus question de continuer avec la complaisance, l'impunité, même si par ailleurs les attentes du peuple congolais ne sont pas réalisées. Je voudrais signaler que la trame de cette motion de censure repose sur le programme du gouvernement, et nous, je l'ai passé au peigne fin pour articuler cette motion de censure. Donc que le seuil de recevabilité ait été atteint. Et aujourd'hui, avec le vote de 367 députés, après la signature de 301 députés, je pense qu'il y a lieu, qu'en tant qu'initiateur de cette motion de censure, de retrouver un peu de satisfaction, parce qu'au fait, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Encore faudra-t-il que, dans la gouvernance de ce pays, nous puissions respecter la logique institutionnelle. Cela veut dire que l'Assemblée nationale doit faire son travail, le gouvernement son travail, et toutes les autres institutions, surtout avec la règle de la séparation de pouvoir. Ainsi donc, nous pourrons croire que l'état de droit peut finalement prospérer dans notre pays, et avec l'état de droit, nous espérons que nous pouvons arriver à démentir ce paradoxe humiliant d'un pays aux ressources scandaleuses, ressources naturelles scandaleuses, mais avec des populations toujours scandaleusement pauvre.
Cher Ruben Okende, cette plénière s'est déroulée sans la présence du Premier ministre à l'hémicycle.
Le Premier ministre n'a pas compris la pertinence de sa présence, parce qu'en fait, dans la construction de l'état de droit, même le grief que nous avons articulé n'était que des présomptions. Encore faut-il qu'il puisse se saisir de l'opportunité pour exciter aussi ses moyens de défense. Ça, c'est de un, il a raté le coche après avoir refusé de démissionner, parce que nous lui avons aussi fait très respectueusement appel à la démission. Il n'a pas suivi, et maintenant là qu'il n'a pas voulu se présenter, croyant malencontreusement que ça pourra faire obstruction à la procédure. Non, parce que l'article 199 du règlement intérieur prévoit que lorsqu'un interpellé refuse de se présenter, comment la procédure sera poursuivie, et c'est ce qui a été fait. Mais par ailleurs, il faut aussi souligner que le fait pour le Premier ministre de ne pas répondre à cette invitation de l'Assemblée nationale constitue aussi un outrage envers l'Assemblée nationale en vertu du code pénal congolais. Je crois à son titre 2, section 3, chapitre 3, section 4, je pense, si je m'abuse, mais enfin, l'outrage envers des institutions, notamment l'Assemblée nationale, est une infraction contre l'ordre public et comparable à la rébellion. Bon, je ne veux pas aller jusqu'au pénal, mais je constate tout simplement que le Premier ministre a raté l'occasion de pouvoir démontrer le contraire, que son gouvernement serait peut-être capable, compétent, par rapport à ce que nous avons allégué, et donc une manière pour lui de prendre acte de ce que nous avons pu faire, et Dieu merci, la procédure est arrivée à son terme.
Merci. Luc Kassongo, député national et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, associé en sigle. Vous êtes aussi président de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Votre réaction, Luc Kassongo.
Merci, madame. Merci. Je salue la présence de professeurs et chers collègues et la présence de l'honorable Chéribert. Nous avons de prier depuis très longtemps, parce que nous étions en droit administratif, nous ne sommes pas dans le droit de la rue, et j'ai honte à la place de mon co-débatteur, honorable Schubert, qui se vante que ça a tête qu'il y a la présence d'un état de droit. Et moi, je me dis, est-ce que réellement mon collègue maîtrise le concept d'un état de droit, ou il le dit seulement pour faire plaisir à la population qui nous suit? Un état de droit, c'est celui qui est fondé sur le respect des textes, là où les individus ne sont pas au-dessus de la loi. Et nous savons, madame, nous avons toujours dit ça, ce n'est pas pour la première fois que nous rencontrons avec le collègue Chéribert à cette question, nous l'avons si bien dit la fois passée. La Cour constitutionnelle qu'on est en train de vanter que c'est elle qui a donné le pouvoir au bureau d'âge, nous avons les missions reconnues à chaque institution de la République. Et nous avons quatre institutions de la République. Nous avons l'institution présidente de la République, l'institution gouvernement, l'institution parlement et le cours de tribunaux. Et chaque institution a ses missions. Nulle part, là où on donne le pouvoir à la Cour, comme le prétend le bureau d'âge avec les collègues députés, qui estiment que non, l'arrêt de la Cour, la Cour constitutionnelle n'a pas pour mission de légiférer. Il n'y a que le Parlement. Et exceptionnellement, le président de la République, lorsqu'il est habilité par le Parlement, il peut prendre une ordonnance, loi, donc une décision en lieu et place du Parlement. Donc on ne reconnaît pas à la Cour constitutionnelle le pouvoir de légiférer. Et à ce niveau-là, nous disons que ceux qui pensent que le pouvoir du bureau d'âge devrait être donné par la Cour constitutionnelle, ils sont allés à côté, à ligne. La Cour constitutionnelle, qui a été saisie par le bureau d'âge, avait donné le pouvoir à ce bureau d'âge de traiter de deux matières, point à la lettre.
Professeur Lucien Kassongo, excusez-moi, on ne va pas revenir sur ces débats. La motion a été votée. Le Premier ministre a été destitué, ainsi que son gouvernement. Mais pourquoi le Premier ministre ne s'est pas présenté aujourd'hui devant les députés? On a suivi le président du bureau d'âge dire que le Premier ministre rend compte aux députés. Il ne vient pas rendre compte au bureau d'âge. Il devait s'expliquer devant les députés.
Nous avons vu tous la lettre du Premier ministre. Le Premier ministre, par respect aux députés qui représentent le peuple congolais, a donné quelques réponses aux griefs qui lui étaient par correspondance en disant qu'il était disposé de répondre devant un organe compétent pour l'inviter. Nulle part dans les attributions reconnues au bureau d'âge. Le bureau d'âge fait office du bureau provisoire qui a l'émission déterminée par la Constitution et le règlement de notre Chambre. Et ces missions-là ont été rappelés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et ces missions ne se révèlent qu'à deux missions. continuer avec les pétitions et aboutir à l'installation du bureau définitif. Ce qu'on est en train de faire, quand on dit que nous sommes en train de vivre l'état de droit, ce n'est pas une anarchie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Là où les peuples ne sont plus respectés, eux ont dit, mais quel que soit le nombre de députés qui ont participé à ces votes de la motion de censure contre le gouverneur, le premier ministre et son gouverneur. C'est comme tu dirais, on peut se réveiller le matin, nous ici, nous disons aujourd'hui, nous appelons le procureur de la République pour venir se présenter parce qu'il y a ça où le président de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas de cette façon qu'on fonctionne. Et le pouvoir ici en droit administratif est d'attribution. Le premier ministre a répondu. Il a dit à ce bureau d'âge que ce bureau n'avait pas compétence. Ce bureau n'avait pas pouvoir d'inviter un gouvernement. C'est un bureau provisoire qui a des missions spécifiques. Et le premier ministre, en tant que légaliste, il est un chevronné de la politique, ne peut pas cautionner la violation de la Constitution. Il a répondu qu'il est disposé de venir répondre devant un bureau responsable, un bureau qui a le pouvoir. Et c'est ce qu'il a dit et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi les députés du NCT n'ont pas répondu, n'ont pas accepté, n'ont pas participé à la plénière de ce jour pour cautionner la violation des textes qui régissent la République. Et nous, ce qui arrive, quand ils disent non, ils disposent de 48 heures, bien sûr. On ne peut pas accepter qu'on puisse exécuter un ordre illégal. Un ordre illégal ne s'exécute pas. J'ai suivi le camarade...
Vous encouragez le Premier ministre, professeur Lucien Kasongo, vous encouragez le Premier ministre à ne pas déposer sa démission dans les 24 heures.
Il va déposer la démission pour quel fait? Pour le théâtre que nous avons vécu. Le Premier ministre a agi en âme et conscience. L'ordre mal donné ne s'exécute pas. Personne ne peut exécuter l'ordre manifestement illégal. Et c'est ce qui est passé aujourd'hui, c'est illégal. Et le Premier ministre a déjà dit, il a écrit, il a dit que le bureau d'âge n'avait pas compétence, n'avait pas qualité de l'institut. Et j'ai entendu le collègue Chérubin qui va très loin, qui considère que non, comme le Premier ministre ne s'est pas présenté, on pouvait aller dans l'aspect pénal. Il faut lire le texte, honorable Chérubin. L'article 165, quatrième alinéa de la Constitution, c'est à ce sujet. Quand est-ce qu'il y a outrage contre le Parlement? C'est déterminé par la loi. Il y a le terme précis. Quand on pose au Premier ministre ou à un membre du gouvernement des questions, en ayant un mois, il ne répond pas. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de l'outrage. Ce n'est pas parce que vous l'avez invité de manière illégale et que le Premier ministre ne s'est pas présenté, ça devient de l'outrage. L'outrage est défini par la Constitution. Ce n'est pas le droit pénal qui définit l'outrage dans le cadre de relations entre le gouvernement et le Parlement.
Merci.
C'est la Constitution, à son article 165, à son quatrième alinéa, qui définit ce qu'était l'outrage. Donc, nous disons, ce qui s'est passé, c'est du théâtre, c'est une façon de faire voir aux gens qui a maintenant une majorité qui a basculé. C'est ce que nous avons vécu. Mais en ce que nous sachons, l'ordre mal donné ne s'exécute pas.
Merci.
Le Premier ministre a souligné avant la plénière que le bureau d'âge n'avait pas compétence.
Merci, vous l'avez déjà dit, professeur Lucas Kasongo.
Il ne déposera pas sa démission.
Merci. Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani, professeur. Quelle analyse vous faites de la déchéance du Premier ministre Ilunga Ilukamba? C'était prévisible.
Oui, évidemment, c'était prévisible. On savait que tant qu'ils étaient en train de s'attraîner pour faire la convocation, tout ça, donc c'est qu'ils n'étaient pas encore prêts avec les nombres de personnes requis pour pouvoir faire tomber le gouvernement. Parce que dès le moment où ils ont convoqué, ils ont mis ça à l'ordre du jour, on savait que les sorts étaient déjà jetés pour défenestrer le Premier ministre et son gouvernement. Mais ce qu'on peut retenir de ce qui vient de se passer, il y a une large majorité, il n'y a même pas à discuter par rapport à ça, ce qu'on peut se poser, c'est sur le fonctionnement même du régime. Donc, c'est aujourd'hui, si on cherchait encore une preuve pour savoir quel type de régime on a au Congo, ben donc on a la preuve aujourd'hui, même par mille, pour montrer qu'effectivement, là, nous avons un État qui n'est ni un État de droit, ni une démocratie. Parce qu'une démocratie, un état de droit, c'est respect des textes, respect de la forme. Et donc là, un bureau, je répète encore, un bureau un bureau provisoire a pour mission de gérer les affaires courantes, mettre en place un bureau définitif. Ne peut pas faire le contrôle parlementaire, qui relève donc de l'exercice d'un bureau définitif normal. Donc on a là, si vous voulez, un rapport de force politique qui a été, qui est mis en place, et cela montre bien que on est dans un pays où les acteurs politiques qui sont en fait, on pourrait qualifier de courtiers politiques, sont là uniquement pour voir où est-ce que l'eau se trouve, est en train de se diriger pour aller comme le poisson vers les eaux les plus profondes pour trouver de quoi vivre là-dedans. Et donc c'est ce qui explique, si vous voulez, ces basculements. Mais c'est aussi, ça montre bien que les présidents Tshisekedi a compris comment fonctionne, si vous voulez, il a compris les paradigmes de l'homme politique congolais et qu'il faut appâter comme un poisson pour l'attraper, pour le sortir de l'eau. Et il a compris ça, et c'est ce qui lui permet d'engager de jour en jour, victoire sur Joseph Kabila. Maintenant la question qui se posera dans les prochaines étapes, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura neutralisé tous les clans Joseph Kabila, parce que c'est de cela qu'il s'agit, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tous ces gens qui sont là, réunis aujourd'hui autour de ce qu'on appelle les unions sacrées, qu'est-ce qui les rassemble? À part tout simplement cette volonté, si vous voulez, ces désirs communs de se débarrasser du clan Kabila et du FCC. Donc il n'y a rien qui les réunit. Parce que c'est qu'on commence déjà à voir dans les réseaux sociaux comment les chiens de garde des uns des autres commencent à tirer à couleur rouge sur les uns les autres pour les discréditer, pour se disputer en fait les postes avant même que l'on puisse arriver à mettre en place un gouvernement. Donc on voit là que les choses vont aller de mal en pire après cette étape. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce qui va se passer, c'est que nous allons assister à une bataille féroce entre les différentes forces politiques et le peuple ne fera que, n'aura que ses yeux pour pleurer. Il n'y aura rien qui va se passer puisque l'année prochaine, on va se retrouver en train de préparer les élections et quand on prépare les élections, qu'est-ce qu'on fait? Chacun essaie de racler au maximum ce qui peut racler de la marmite et finalement, il n'y aura pas d'action publique et donc on va continuer à pleurer. Eh bien, le président aura obtenu ce qu'il veut, c'est-à-dire avoir un groupe de gens qui lui seraient fidèles, entre guillemets, mais dont la fidélité est monnayée, et malheureusement, cette fidélité-là, elle n'est pas une fidélité importante. Alors, c'est pour ça que je pense que l'issue, ce qui pourrait déterminer l'issue de cette affaire, c'est que nous puissions retrouver une espèce de citoyenneté, qu'on cesse d'être dans ce type de régime où nous sommes des sujets du roi, du prince, un peu comme ce que disait Mahmoud Mandani, hein. Nous devons être des citoyens et non pas des sujets du prince. Les sujets du prince, ils suivent tout ce que le prince veut et sa volonté devient une sorte de loi. Et c'est là justement que nous nous trouvons dans cette situation-là. Mobutu est parti, Mouzé est venu, les Raïs étaient là et aujourd'hui nous avons Fati et c'est la même chose qui se reproduit. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il ne faut pas espérer que nous puissions avoir des meilleurs résultats dans les semaines et les mois à venir pour l'intérêt du peuple.
Il y a cet auditeur Kaikai Kabasele depuis Kananga qui dit ceci, c'était prévisible que la précipitation serait constatée dans les chefs des députés nationaux. Il serait important de revoir l'arsenal juridique congolais car l'application de la jurisprudence en RDC risque de plonger ce pays dans une insécurité juridique très déplorable. Quelles sont les compétences du bureau provisoire et celles du bureau définitif de l'Assemblée nationale selon la Constitution et les règlements intérieurs de cet organe délibérant? Aucun arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut aller à l'encontre de la Constitution qui est la loi fondamentale du pays. À mon humble avis, l'examen et l'adoption d'une telle motion ne devraient intervenir qu'après l'élection et l'installation du bureau définitif pour éviter toute violation des lois et règlements du pays, alors que l'état de droit, c'est le respect strict et sans faille des textes légaux. Il vous rejoint un tout petit peu dans votre analyse.
Oui, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est dans une situation où on ne respecte pas le droit. Et ce n'est pas l'État. L'État de droit, ça signifie qu'on respecte l'État lui-même, avec tous ceux qui sont là, respecte les compétences des uns des autres, l'État de droit. Si vous n'en respectez pas les compétences des uns des autres, bien, on va vous dire une espèce de gêne. Et en l'occurrence, et c'est ça. Alors maintenant, ce qui reste à voir, qu'est-ce que l'autre camp va faire? Est-ce que les autres vont rester les bras croisés, le clan Kabila va rester les bras croisés. Et si jamais le Premier ministre refuse de se soumettre à cette motion qui a été votée contre son gouvernement, puisqu'il ne reconnaît pas la légalité de la procédure qui a été entamée contre lui parce que c'est par un bureau qui n'est pas compétent pour le faire, alors qu'est-ce qui va arriver? La crise qui est déjà assez grave va donc encore empirer. Et ça pourrait empirer. Et si ça empire, il faut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être, on pourrait avoir des scénarios à la malienne où on avait eu à une époque Amanitou Manitouré, père son âme, qui a pris les choses en main. Ça pourrait être aussi comme les jeunes colonels qui viennent de prendre le pouvoir au Mali, là. Et donc, c'est des choses comme ça qu'il faut redouter, qu'il pourrait aussi y avoir une espèce de gouvernabilité généralisée du pays. Parce que les partisans de ceux qui s'estiment lésés, ils pourraient donc être tentés de dire, voilà, puisqu'on ne veut pas écouter la voix de la raison, la voix du droit, alors il n'y a plus que la voix des faits. Les voies des faits, eh bien, c'est les groupes armés, c'est tout ce monde-là. Nous avons déjà connu ce type de situation dans les années 60. Souvenez-vous, le gouvernement de Patrice Emery Lumumba qui avait été illégalement démis de ses fonctions. Et ses partisans se sont constitués, ils ont fait d'appeler ce qu'ils appelaient le gouvernement légitime et légal, qui était donc replié sous son levier pour s'opposer au gouvernement de Léopoldville. Nous risquons d'avoir ce type de situation et on ne sait pas tirer de leçons du passé. Et c'est dommage que nous soyons toujours amenés à revenir sur les mêmes histoires 15, 30 ans, 50 ans après, 60 ans après. Et c'est dommage.
Chérubin Okende, il y a Boni Mitoumé Kalicia qui vient de nous envoyer un message. Il dit ceci, nous ne savons plus en qui faire confiance. Ce qui se passe au Parlement n'est pas nécessairement la volonté du peuple, mais une réalisation des accords. L'Union sacrée se présente aussi comme une nouvelle forme de la coalition FCC-CACH.
Eh bien, je respecte le point de vue de Boni. Je lui dis simplement que aujourd'hui, même dans cette union sacrée, nous avons posé le préalable. Nous ne voudrions pas aller dans une coalition qui ressemblerait à ce mariage contre nature FCC-CACH. Nous l'avions, dès le lendemain de ce mariage-là, de cette coalition, dénoncé. Donc, nous voudrions bien être réalistes sur le plan politique. Vous me permettrez, madame, de revenir un peu sur des choses excessives que je viens d'entendre et de Lucas, de l'honorable Lucas Kassongo et même du professeur Alphonse Maïndo.
Allez-y, mais soyez bref.
En toute modestie, je crois que je ne vais pas verser dans l'insulte parce que j'ai senti vraiment certains propos qui frisent l'injure. Mon éducation et mon instruction ne me les permettent pas. Et Lucas Kassongo et Alphonse Maïndo, lorsqu'ils parlent de l'arrêt de la Cour constitutionnelle que j'ai même évoqué ici, 1438, et de l'objet de la session extraordinaire, moi je crois que c'est faire preuve de cécité politique et intellectuelle que d'ignorer le feuillet 8e de cet arrêt qui, en son 4e paragraphe, a habilité le bureau provisoire ou le bureau d'âge à convoquer d'abord la session extraordinaire pour parachever le processus d'élection et installation du bureau définitif et aussi de procéder au contrôle parlementaire. Je ne sais pas quel type de lecture ils font, quel type de démocratie ou d'état de droit ils prônent en étant en déconnexion avec le même texte auquel ils font référence. C'est quand même excessif. Je pense que avant de parler de certaines choses, il faut en avoir la maîtrise. Et ce n'est pas de Lucas que j'apprendrai le droit administratif et le droit constitutionnel quand même, ayant l'élégance et la modestie de suivre le débat. Pour Lucas Kassongo, je comprends l'amertume de quelqu'un qui, aujourd'hui, après l'ivresse du leurre du pouvoir, il doit entrer dans le col d'apprentissage de l'opposition. C'est tout à fait compréhensible qu'il soit dans ces états d'âme. Mais cultivons le droit. Parlons droit s'il veut que nous parlions de textes juridiques. Il ne faut pas improviser des leçons malencontreuses. Donc voilà, à ce stade, même lorsqu'on parle de compétences, je dis ici, en vertu de l'article 23.26 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la compétence de connaître d'une motion de censure revient à l'Assemblée plénière qui est souveraine. Donc, peu importe que ça soit un bureau définitif ou un bureau provisoire ou d'âge, cette compétence nulle part dans le règlement intérieur, on trouvera la compétence d'examiner une motion de censure dans le chef d'un bureau.
Merci.
Je précise ici la disposition du règlement intérieur, article 23.26. Donc, lorsque nous abordons le débat politique, il faut que nous apprenions à prendre de la hauteur pour ne pas verser dans des états d'âme, parce que finalement, les hommes d'État doivent savoir comment maîtriser leurs états d'âme. Et ce conseil, je le prodigue aussi au professeur Alphonse Mahindo. Il peut avoir son amertume, mais confondre ici certains principes, moi je trouve que c'est fort dommage.
Lucien Kasongo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient d'Isangi.
Je m'appelle Jacques Defunga depuis Isangi, province de la Tchoupo. En dépit du fait que la procédure de fin contrôle parlementaire a été biaisée et précipitée, le Premier ministre aurait dû sauver son honneur en déposant sa démission. Vraiment, Ilukamba n'a pas été à la hauteur de l'attribution du chef du gouvernement du pays comme la RDC. En plus, il n'a pas pu conduire le gouvernement sous la belle de coalition FCC-CACH. Je n'arrive pas à comprendre comment un homme d'État comme lui, qualité de prophète d'université, n'arrive pas à anticiper les événements favorablement. Quel que soit le bureau qui devrait siéger pour sa motion, ici devrait toujours être la déchéance de celui-ci. Tout était donc prévisible.
Lucien Kasongo.
Oui, merci madame. Je suis avec attention l'intervention de notre auditeur Jacques et à partir de Isangi, que je salue en passant. Le Premier ministre, s'il a bien dit, si c'était le bureau définitif, le bureau compétent, il se présenterait pour démontrer il y a les grièves qui ont été mises à sa charge, il aimerait porter ses griefs, des réponses appropriées à ses griefs, parce qu'il a répondu au bureau d'âge, il a envoyé une correspondance au bureau d'âge, là où il a relevé ce qui lui est reproché, il a justifié. Et nous, la motion, c'est le de la démocratie. Nous avons des pouvoirs en tant que parlement, nous avons le pouvoir de légiférer, le pouvoir de contrôler. Mais le contrôle se fait dans un cadre approprié. Et la motion, nous, on n'en a pas, on n'en discute même pas, c'est le droit légitime reconnu aux honorables députés que nous sommes. C'est parmi les missions traditionnelles, les missions constitutionnelles nous dévolues par les contrats de l'État. Mais nous disons, qui est, avec quel bureau? Parce qu'on a une mission spécifique dans chaque organe. Quand le camarade Chéribin, le collègue Chéribin, préfère à l'arrêt de la cour, moi j'ai l'arrêt avec moi, mais bien sérieux de cet arrêt. À partir là où la décision de la cour commence, après le vu, et reçoit et déclare fonder la requête. En conséquence, c'est ce paragraphe-là qui constitue la teneur de l'arrêt. Dans ce paragraphe, nulle part où on donne au bureau d'âge le pouvoir d'exercer le contrôle. Et ce n'est ni même la cour qui devrait donner le pouvoir. C'est la constitution du règlement intérieur qui donne le pouvoir des organes. Ici, on ne fait pas débat, c'est la loi qui le dit, le collègue Géribin, je sais qu'il y a une carte de la motion, c'est de la démocratie, c'est le droit le plus légitime, il pouvait ne plus que le faire, mais de la manière dont on est de le faire, c'est ce qui chauffe, c'est ce qui atteste que nous sommes en train de marcher sur les lois qui nous régissent, alors que nous sommes les législateurs, nous devrions nous-mêmes respecter les textes que nous adoptons. Le Premier ministre démissionnaire, c'est un acte de volonté. On ne peut pas comprendre la qualité de démissionnaire de force. Ici, il allait d'abord justifier, il est disposé, parce qu'il a écrit, quand vous lisez la dernière phrase de sa lettre adressée au bureau d'âge, il dit qu'il se ramène au bureau définitif pour venir justifier ce qu'on lui reproche. Il n'a pas refusé de démissionner. Il allait d'abord justifier pour porter parce que on peut balancer n'importe quoi dans les réseaux sociaux, alors que la réalité n'est pas celle-là.
Merci.
Il est disposé, il pouvait le faire calmement, justifié, quand vous lisez ces quelques paragraphes, quelques pages de ses réponses, vous vous rendrez compte qu'il a beaucoup dit.
Merci, professeur.
Si il se rend compte qu'il n'est pas en mesure de le faire, c'est un acte volontaire, il peut toujours le faire, mais pas dans un cadre de violation de textes qu'on peut amener à un gouvernement légalement constitué de démissionner par un bureau qui n'a pas qualité de l'État.
Lucas Kasongo, on vous garde encore dans ces débats. On va vous redonner la parole tout à l'heure. Professeur, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kisangani.
Jordan Saïdi, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Nous saluons cet exercice démocratique qui vient d'être effectué par nos élus nationaux, mais il reste de savoir que le gouvernement Ilunga Ilukam a été reproché de quoi? Le prochain premier ministre ne subira-t-il pas le même sort que son prédécesseur? Nous ne vivons pas une crise entre le Parlement et le gouvernement. En quoi cette déchéance profite-t-elle au peuple congolais qui a déjà perdu son espoir? Personnellement, je pense que cette année devrait être une année des actions telles que promises par les chefs de l'État à maître reprise que de vivre ce genre de turbulences politiques qui, en revanche, n'est pas bénéficiaire au peuple congolais.
Professeur Alphonse Maïndo, les inquiétudes de cet auditeur sont-elles justifiées?
Oui, tout à fait, c'est ce que je disais tantôt. Je disais que, en fait, on est là, les plus grands perdants de cette bataille politique, j'allais dire politicienne, entre les entre deux hommes, les sortants et les l'entrant, donc le président qui est parti et celui qui est en poste, et donc avec leurs différentes familles politiques, c'est les principaux perdants, c'est le peuple congolais. Alors donc, et moi je suis là où je suis pas d'accord avec l'intervenant Saïdi, c'est par rapport à l'exercice démocratique. Bon, je sais pas si on peut, j'ai dit tantôt dans mon introduction, là on voit bien que ce n'est pas vraiment une démocratie, c'est le fait d'un prince. Nous sommes dans un régime autoritaire. Et un régime autoritaire n'est pas une démocratie. Et donc, ce qui vient de se passer aujourd'hui, ça confirme bien cet autoritarisme qui est le fait du prince. Et je voudrais ici rebondir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure par l'honorable chérubin, voyez-vous, que je salue. Mais lorsque vous faites le travail d'un universitaire, d'un intellectuel, c'est d'interpréter, d'analyser et d'essayer de comprendre les différents faits sociaux, les actes, y compris les actes de cours et tribunaux. C'est ce que fait la doctrine scientifique, juridique notamment. Et là, en l'occurrence, nous avons, en essayant de comprendre ce que la décision, l'arrêt de la Cour constitutionnelle par rapport à ce qui lui avait été posé comme question, n'a pas dit les droits. La Cour n'a pas dit les droits en cette matière-là. C'est la volonté du prince, encore une fois. Et cette cour-là n'est pas en son premier coup. On se souviendra de 2019, lorsque il y a eu cette fameuse, si vous voulez, jeu de ping-pong, ce fameux jeu de ping-pong, où on avait les validations, invalidations, validations, invalidations de cette cour, dont les arrêts sont supposés être définitifs. Voyez-vous, et aujourd'hui, je voudrais bien poser la question à l'honorable chérubin. Si cette cour-là constitutionnelle disait aujourd'hui que lui, il est une femme, accepterait-il, se soumettrait-il à cette décision de cette cour, puisque c'est la cour qui l'a dit? Non, je pense qu'il ne le ferait pas. Et donc il faut qu'on soit quand même assez critique, même si il y a des positions qui confortent nos propres convictions, tout ça, je le comprends. Mais moi, j'essaie de me situer pour parler pour l'avenir, pour le futur. Donc si on regarde le futur du pays, on regarde l'avenir du pays, on a justement intérêt à s'inquiéter par rapport à ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est quoi? C'est ce que disait tout à l'heure l'intervenant Saïdi pour dire, voilà, on aura les mêmes problèmes qu'avec les prochains premiers ministres, puisqu'on a là un conglomérat qui n'a pas d'homogénéité. Qu'est-ce que les gens du MLC, les gens de Ensemble, les gens de CASH, de l'UDPS, les gens du FCC qui sont là, les gens des CCU ou de ADC ont de commun, à part le fait de vouloir en découdre avec les régimes qui étaient là avant? Il n'y a rien de commun. Merci. Donc, si ça va produire les mêmes effets, on va se retrouver avec une crise. C'est ce que disait Michel Daubry. Si vous voulez comprendre une crise dans son livre « La sociologie des crises », eh bien, il faut regarder en amont. Les origines, les germes d'une crise se trouvent déjà dans la formation même de l'institution. Et donc là, le prochain gouvernement ou le prochain bureau de l'Assemblée nationale ont déjà en eux-mêmes les germes de leur propre crise, de leur propre destruction. Et c'est pour moi, on va se retrouver d'ici quelques mois pour le constater.
Merci, professeur. Chérubin Okende, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient du Maniema. Je vais vous demander d'être bref dans vos réactions ou dans les conclusions tout à l'heure. Nous n'avons plus beaucoup de temps. On va prendre cet auditeur qui nous appelle depuis le Maniema.
André Manuel Pongombo à partir de Kibombo Maniema. Ce qui est arrivé était l'accomplissement d'une attente de la population congolaise. Ce que la population ou la RDC est devenue aujourd'hui, c'est Ilunga et sa suite. Donc nous attendons aujourd'hui que soit nommé un autre premier ministre et que vite et fait il propose son gouvernement qui sera aussitôt présenté par le chef de l'État. On croit qu'avec cela, la population sera satisfaite en totalité, parce que jusque-là, vous savez que nous sommes tous bloqués. C'est le pays qui est bloqué.
Cher Hubert Okende, brève réaction et conclusion.
Eh bien, madame, c'est assez délicat quand on a un débat aussi intéressant que l'on soit bref. Je vais faire un effort. D'abord, Emmanuel, si j'ai bien noté son nom, de Kibombo, vient bien d'administrer une leçon au professeur Alphonse Mahindo, parce que lui, il dit procéder à ce changement de régime qui a montré ses limites. Le plus grand perdant serait le peuple congolais. Donc ça, je respecte. En plus, très rapidement, parce que et le professeur Mahindo et l'honorable Lucas ne m'ont pas rencontré. J'aurais bien voulu la référence de l'arrêt de la Cour constitutionnelle que je puis donner, qu'ils aillent au feuillet 8e, 4e paragraphe, qu'ils lisent parce que je passe sous l'œil, et ils vont corriger leur perception défectueuse de cette problématique. Soyons circonspects, n'exprimons pas nos états d'âme. Si le professeur, je ne lui prête pas d'intention, et comme Lucien Kasongo, dans cette amertume de voir le FCC perdre de l'élan, bah, ça, ce n'est pas mon problème. Mais nous devons ne pas confondre les choses, parler autant de la motion de censure que de l'autoritarisme et du travail d'intellectuel et tout. Moi, je crois vraiment, avec toute l'élégance et toute la considération que je dois à Alphonse Mahindo, là, c'est faire de l'amalgame, et dans un débat politique, il faut bien s'en garder. Parce que je pense que...
Il faut conclure, cher Hubert Okende. Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît.
Alors, je conclue en disant que c'est un débat intéressant, et entre intellectuels, nous devons savoir non exprimer nos états d'âme, surtout lorsque nous nous hasardons de parler non de la politique ou des sciences politiques, mais du droit. Nous devons nous référer à des textes. Ici, désacraliser l'état de droit ne dit rien du tout, c'est un argument spécieux. Encore faut-il démontrer en quoi l'état de droit doit être désacralisé, comme ils se sont employés tous les deux à le faire.
Merci, cher Hubert Okende. Professeur Lucien Kasongo, votre conclusion, vous avez 30 secondes aussi. Lucien Kasongo.
Nous sommes en train de reculer dans la démocratie. Le prof Alphonse Mahindo l'a si bien souligné. Nous ne sommes plus dans un état de droit, nous ne sommes pas dans un état démocratique. Nous vivons dans un état anarchique, là où on se permet de tout faire. Merci.
Professeur Mahindo, conclusion.
Alors, pour moi, je conclurai en quelques mots, simplement en disant que, en fait, les pires est à venir. Voilà.
Merci, professeur Mahindo, Dialogue en Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la production de cette émission. Guy Massé, Dola Madimba, Axel Goncho. Merci à Mimi Kindou qui était à la mise en onde, présentation et coordination Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.